Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Destination DLF, Destination Droit et Liberté Fondamentale, le podcast qui vous résume mensuellement l'actualité des droits et libertés fondamentales. Cette semaine, ou plutôt ce mois, et comme le mois dernier, nous sommes réunis au grand complet avec Anthony
Salut.
et Xavier.
Hello.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer réellement l'actualité des droits et libertés fondamentales, je crois que Xavier a un message à faire passer aux auditeurs et notamment à ceux qui préparent le CRFPA.
Oui, c'était pas grand-chose, mais c'est simplement pour dire que y a, enfin, sur les écoutes, on a toujours un nombre conséquent de personnes qui nous écoutent et qui suivent les épisodes de Destination CRFPA ou de Destination DLF. Donc j'en déduis que voilà, les gens sont présents et peut-être qu'on n'a pas communiqué encore assez sur ça cette saison, mais on a le serveur Discord Destination Droit où on a des salons en fonction des matières où les gens commencent à aborder les questions au CRFPA, donc les questions pratiques, mais surtout les questions de droit. Donc les gens échangent sur les différentes matières. Et voilà, il y a des braises de conversation qui se créent. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, déjà si vous préparez le CRFPA, naturellement, mais aussi si vous ne suivez que pour le côté droit et liberté fondamentaux. De suivre parce qu'il y a un salon Liberté fondamentale où voilà, les gens échangent un peu leurs documents et les ressources qu'ils trouvent, les liens. Là, dernièrement encore, je le remercie, il y a Baptiste qui a partagé un colloque sur l'indépendance des magistrats de la Cour de cassation et ça permet voilà, de discuter sur des thèmes qui font partie aussi de la culture juridique. Donc, petite parenthèse sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Pour rejoindre, vous le trouverez vraiment un peu partout, que ce soit sur notre site internet ou sur la page Facebook ou LinkedIn. Et si vous avez un problème pour le trouver, n'hésitez pas à nous écrire.
Ouais, et je me permets juste avant de commencer, je rebondis sur ce que tu dis, Xavier, parce que tu parlais des colocs. La Cour de cassation, qui est devenue moderne, qui s'est modernisée, a une super page YouTube qui diffuse en direct beaucoup, beaucoup, beaucoup de colocs. Il y en a presque un par semaine. Si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, il y en avait un sur le JLD, l'Office du juge et notamment du JLD. Donc je vous invite à aller sur la page colloque du site de la Cour de cassation. Il y a beaucoup beaucoup de choses, notamment ça fonctionne pas mal par cycle. Là il y a par exemple un cycle sur la justice environnementale. Donc c'est complètement ancré dans cet esprit des droits et libertés fondamentales puisqu'on sait que le droit à l'environnement grimpe, grimpe, grimpe. On en avait déjà parlé sur l'actualité de janvier, il y avait une condamnation de la France. Et teaser, on va en reparler dans cet épisode de février. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup beaucoup de choses. Il y a eu quelque chose sur l'indépendance de la procédure pénale. N'hésitez pas à aller voir la page YouTube de la Cour de cassation et la page sur les colloques de la Cour de cassation. Anthony, Xavier, quelque chose à rajouter ou on rentre dans le vif du sujet? Super. Alors aujourd'hui, on a six sujets différents qu'on a décidé de vous présenter. Principalement des arrêts du Conseil d'État. Mais on a aussi quelques décisions de la CJUE ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on commence tout de suite donc avec une décision de la CEDH du 18 février 2021, PM et FF contre France. C'est une décision que vous avez peut-être vue passer, puisqu'elle ce sont donc deux frères qui le lendemain, enfin pour le jour de l'an, passage de 2006 à 2007, ont fait la bringue un peu fort et ont donc fini par commettre des faits de dégradation de biens privés et qui ont donc passé une partie de la nuit en cellule de dégrisement puis en garde à vue et qui à cette occasion se targuaient d'avoir été victimes de faits de violence de la part des officiers. Il y a eu une procédure plutôt longue, je vous passe les détails. Au final, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie, notamment pour savoir si l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde, l'article 3 qui est l'interdiction de la torture, je vous le lis, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Et c'est souvent sur ces aspects de traitement inhumain ou dégradant qu'on est attendu, en fait, que les États membres de la Convention de sauvegarde, signataires du moins de la Convention de sauvegarde, sont attendus. et c'est sur ce point-là donc que la France l'était. Deux questions qui se posaient. Vous savez, cet article 3, il y a toujours deux volets. Il y a un volet procédural et il y a un volet matériel. C'est souvent le volet procédural qui pose le plus de questions, puisque on va devoir, la Cour va chercher à vérifier si l'État signataire a diligenté des procédures suffisantes pour s'assurer que la prohibition des traitements dégradants a pu être sanctionnée, du moins que l'atteinte, que la violation de la prohibition des traitements dégradants a pu être sanctionnée. Et donc c'était ça le sujet aujourd'hui, enfin dans cette décision principalement, puisque ce qui se posait comme question, c'était une question de charge de la preuve, principalement sur le volet procédural, puisqu'on avait des allégations de la part donc des deux frères qui disaient avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part des policiers. En réponse, et c'est là que c'est intéressant, il y avait eu des enquêtes qui avaient été diligentées pardon, en France, notamment par la Commission nationale de déontologie et de sécurité, qui aujourd'hui a été, on va dire, absorbée, du moins dans la fonction du défenseur de droit. Et puis il y avait eu une procédure donc, de l'inspection générale des services, l'IGS, la police des polices. Et toutes ces procédures, si vous voulez, avaient conclu au fait que les deux frères avaient été virulents et qu'une interpellation musclée avait été nécessaire. Donc il y avait bien eu une enquête qui avait été mise en place. Et sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a fait attention à regarder toutes les étapes de la procédure. Et ce qui a été déterminant, on a l'impression, c'est le fait donc que la CNDS, donc la Commission nationale de déontologie de sécurité, aujourd'hui défenseur des droits, était une autorité administrative indépendante, une AAI. Et on dirait que ça l'a convaincu. Donc en fait, sur la charge de la preuve de vérification du volet procédural de l'article 3, lorsqu'il y a une allégation de mauvais traitement, ensuite c'est un peu à l'État signataire de rapporter la preuve qu'il y a eu des procédures qui ont été mises en œuvre pour vérifier si oui ou non ces mauvais traitements existent réellement. On a le souvenir de plusieurs arrêts, je n'ai pas le nom en tête, peut-être que vous l'aurez, Xavier Anthony. C'était notamment, si je dis pas, c'est à Chypre, des arrêts où on a des gens qui tombent des balcons et où il n'y a pas vraiment de procédures qui sont mises en œuvre. On en a pas mal en Turquie aussi, en Russie, pardon, où la Russie est condamnée. Et c'est souvent sur le volet, enfin, c'est parfois sur le volet de l'article 3, notamment lorsqu'il y a des tortures et des traitements inhumains dégradants, parce qu'il n'y a pas de procédure.
Ouais, sur cet arrêt, je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parles, mais en l'occurrence, sur le côté procédural, ce que tu évoquais, c'est l'arrêt Bouid qui fait référence en la matière et c'est un arrêt enfin, sur lequel, là, en l'espèce, la Cour se base pour construire sa décision en disant que c'est de jurisprudence constante en suivant cette jurisprudence Bouid que le côté procédural semble rempli parce que, notamment, enfin, les différents organes qui ont été saisis sont indépendants, que les investigations ont a priori pas été bâclées et compagnie, quoi.
Ouais. Et cet arrêt donc là qu'on est en train de commenter du 18 février 2021, donc sur lequel la France n'est pas sanctionnée, on l'attendait un peu puisque le dernier arrêt qui avait été rendu, la dernière décision qui avait été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme contre la France sur le fondement de l'article 3 de la CEDH, il datait de décembre 2019. C'était l'arrêt JM contre France et c'était cette fois des violences dans le milieu carcéral. Et là, la France avait été condamnée en 2019, notamment parce que les soi-disant gardiens violents n'avaient jamais fait l'objet d'audition et en fait l'enquête n'avait pas réellement été menée. Et donc on voit qu'il y a vraiment c'est une appréciation très factuelle que fait la cour de cassation, pardon, la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer si oui ou non une enquête a été mise en œuvre finalement. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Xavier ou Anthony.
Moi,
Peut-être.
vas-y, vas-y,
Ouais,
vas-y,
vas-y,
vas-y, je
bientôt.
t'en prie, sur lui.
Ouais, moi, c'était avant de passer à la décision sur le volet procédural et matériel. Mais avant ça, la France, elle a tenté une petite parade procédurale avec la recevabilité des parties. Et elle avait tenté d'invoquer le fait que les deux requérants n'avaient pas utilisé, enfin n'avaient pas usé tous les voies de recours internes, puisque vous êtes, enfin, je pense que vous le savez, pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Et là, la France a tenté de démontrer que les requérants n'avaient pas utilisé. Donc, il cite l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire. C'est celui qui dit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Et en fait, c'était grosso modo, l'État demandait à ce que l'affaire ne soit pas jugée parce que les deux parties n'ont pas demandé de dommages et intérêts et de ce fait seraient pas recevables parce qu'ils auraient, enfin, il y avait d'autres moyens à épuiser avant d'arriver devant la Cour européenne. Et là, la Cour, elle répond en disant que le fait d'intenter des procédures civiles ou administratives qui n'ont que pour but d'allouer des dommages et intérêts, et pas d'identifier et de punir les responsables d'infractions, c'est deux choses différentes. Et dans l'espèce où, comme Antoine a pu le dire, il y avait eu pas mal de procédures, que ce soit en constitution de partie civile, avec plein d'enquêtes, la saisie d'une administration indépendante, pour la Cour, c'était quelque chose qui tendait à dire que les voies de recours avaient été épuisées, quand bien même on a cet article L141-1 qui n'avait pas été évoqué. Donc, c'était juste une petite parenthèse sur. Parfois, moi, j'avais l'impression que quand on parlait de l'épuisement des voies de recours, c'était assez simple et facilement identifiable. Il y a quand même encore il y a pas mal de discussions sur est-ce qu'il y a épuisement ou pas des voies de recours, encore aujourd'hui. Donc voilà.
Anthony, tu voulais réagir aussi?
Oui, je voulais juste dire que c'est quand même des sujets qui sont pas mal d'actualité. Enfin, vous savez que tout ce qui est violence policière, ça fait pas mal de bruit. Je sais pas si vous avez vu au Royaume-Uni, il y a pas mal aussi de manifestations en ce moment sur ces sujets. En plus avec la loi pour... c'est quoi, c'est la...
Sécurité globale.
Je me rappelle plus de l'intitulé actuel de la loi là, qui vise à renforcer... la protection de la police, notamment sur l'image, etc.
Ah, sécurité globale.
La loi sécurité globale, exactement. Donc, je pense que c'est quand même des sujets qui sont intéressants. Et effectivement, ce côté où l'État va pas être systématiquement responsable en cas de violence, en fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on a mis en place des procédures pour sanctionner les comportements qui sont inadaptés. Et dans cet arrêt, c'est ce qu'a recherché la Cour, et elle a vu que les procédures avaient été diligentées et qu'elles avaient conclu à ce que, bah, pour le coup, il n'y avait pas eu une violence qui était disproportionnée. Donc voilà, je pense que c'est effectivement une clé de raisonnement qui est intéressante.
Oui, tout à fait. Et alors, je termine là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'article 3, comme on disait, il y a toujours un volet procédural et un volet matériel. Et c'est ce que tu disais, Anthony, c'est que la Cour cherche réellement à savoir si les procédures permettent ou non de mener des véritables investigations. Et si oui, est-ce qu'elles ont été correctement mises en place? Et là, a priori, ça a été le cas. Et sur le volet matériel, en fait, qui est plus sur cette fois la constatation même des violences, si vous voulez, l'existence de violences. Ce qui est assez frappant, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, elle s'est sentie liée, si vous voulez, par les constatations factuelles issues de la procédure. On a l'impression
Exact,
que
ouais.
lorsque la procédure est correctement appliquée, l'appréciation de fait qui en est tirée lie la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, le volet procédural prend vraiment le pas sur le volet matériel, on dirait, dans l'article 3.
Je suis d'accord, mais même là où la cour, elle part sur. Elle se sent liée, je vois ce que tu veux dire, mais. C'est aussi que l'État, bah, pour le coup, dans cette affaire, il s'est, enfin, la charge de la preuve pèse sur l'État parce que au moment où les faits se sont déroulés, même si les gardes à vue étaient enfin, notifiés plus tard, enfin bref, c'est un point négligeable. Au moment où les faits de violence se sont déroulés, les requérants étaient sous, je sais pas si on peut parler sous la protection ou sous le coup, ou sous la surveillance des policiers. Et cette période de temps où un individu est encadré par les officiers, c'est à l'État de démontrer qu'est-ce qui s'est passé ou enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est arrivé. Et là où ça n'a pas joué en faveur, et je ne sais pas, enfin, je me dirais ce que vous en pensez, là où ça n'a pas joué en faveur des requérants, c'est que l'État a apporté la preuve, mais derrière, les requérants n'ont pas forcément contredit la version de l'État, mais c'est surtout que le récit qui avait été énoncé par les requérants était lacunaire et parfois en contradiction, notamment avec ce que a pu voir et constater les médecins. Et c'est là où, du coup, l'État s'est justifié et derrière, il n'y a pas eu une contre-argumentation pertinente, quoi.
Oui, voilà, je pense que quand tu dis que la cour est liée, en fait, c'est juste que dans ce dossier-là, c'était une appréciation factuelle et pour le coup, l'État a apporté des éléments avec des enquêtes, des contre-enquêtes, etc. Alors que les requérants n'ont pas, voilà, comme dit Xavier, n'ont pas été capables
Ouais, de contredire cette
de
version, quoi.
nier, ouais, voilà, c'est ça. Donc je
Voilà.
pense que c'est surtout la preuve en fait qui a été mieux apportée par l'État en l'occurrence, quoi.
Ouais. Preuve qui était à qui lui a incombé et preuve qui a fonctionné ici. Ok.
Super, et ben on passe à la deuxième actualité d'élève du jour et on parle d'environnement, Xavier.
Ouais. C'est ça, environnement, je vous en avais parlé dans l'épisode du mois de janvier. C'est un avis qui a été rendu public par le gouvernement, avis du Conseil d'État sur un projet de loi constitutionnelle qui porte un seul article. C'est un article qui est issu d'une proposition de la Convention citoyenne et qui a vocation à compléter l'article 1 de la Constitution en ajoutant un alinéa portant. La France garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Donc le Conseil d'État a dû opérer un examen dans lequel il se livre un peu un exercice grammatical sur le poids des mots. Et dans cet avis qui est pas très long, il fait 4 pages, le Conseil d'État justement... Il va s'attarder sur plusieurs points, notamment le terme de garantir, donc garantir la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Cet avis, déjà, l'Office du Conseil d'État, c'est un peu de lisser tout ce qui est réglementation française pour pas qu'il y ait des décalages entre les textes. Et le Conseil d'État va commencer par dire que voilà, le terme de garantie. C'est pas un terme qui figure dans la charte de l'environnement, donc charte qui a valeur constitutionnelle, mais c'est pas un terme qui figure dans la charte de l'environnement, et le terme de garantir, c'est un terme qui, selon le Conseil d'État, pourrait avoir comme conséquence d'apporter une obligation de quasi, enfin une quasi-obligation de résultat, ce qui pourrait être préjudiciable pour le gouvernement, parce que enfin, vous en doutez bien qu'il y a entre l'obligation de moyens actuels et l'obligation de quasi de résultat, l'État aurait plus de difficultés à garantir cet objectif. Et du coup, le Conseil d'État recommande au gouvernement il lui suggère d'utiliser plutôt le terme de préserver. Donc préserver la biodiversité et l'environnement. Donc ça, c'est le premier point. Mais même sur le terme de biodiversité, le Conseil d'État favoriserait, et là c'est plutôt pour être en raccord avec la charte de l'environnement, d'utiliser les termes de diversité biologique qui est contenu dans la charte de l'environnement. Et le dernier point, c'est de substituer au verbe lutter le verbe agir qui semble, selon le Conseil d'État, plus approprié. Donc, ce qui nous donnerait une version de ce projet de loi constitutionnelle avec un article qui disposerait la France préserve la diversité biologique et environnementale et agit contre le dérèglement climatique. C'est quelque chose. Enfin, moi, déjà là, avant de poursuivre sur la dernière partie sur l'article 34, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais par rapport à. Enfin, vu que c'est un article qui est issu d'une proposition de la Convention citoyenne, est-ce que c'est pas une dilution de. Déjà, c'est pas une dilution de ce qui avait été proposé? Qu'est-ce que vous en pensez sur ça, vous?
Moi, je... En fait, déjà, je pense la question, c'est aussi quelle va être... L'impact vraiment de cette de l'instauration dans la Constitution de cette disposition. Est-ce que ça va vraiment avoir, parce que vu que comme tu le disais, la Charte de l'environnement est déjà incluse dans le bloc de constitutionnalité, est-ce que ça va vraiment avoir un impact que d'ajouter ça dans l'article 1 ou pas en fait? Et il y a pas mal de gens qui ont dit qu'en fait c'était un peu pour faire plaisir entre guillemets aux personnes qui ont milité en ce sens.
Après, est-ce que tu parles de l'article initial de la proposition de la Convention citoyenne ou tu parles de l'article remanié par le Conseil d'État?
Bah, les deux en fait, parce que bon, et encore celui qui est remanié par le Conseil d'État, enfin, en fait, la question c'est qu'est-ce que ça apporte par rapport à la charte, quoi. Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser.
Bah justement, le fait que l'avis du Conseil d'État modifie les termes en disant si on utilise le mot garantie par rapport au terme de préserve, il y a une obligation de quasi-résultat qui pourrait se créer. Justement, je trouve que. Et le Conseil d'État, il le rappelle en disant que. En introduction, qu'il y a toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la préservation de l'environnement et que le. La protection de l'environnement, c'est un objectif constitutionnel, etc. C'est dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et c'est pas le fait de mettre à l'article premier qui. Enfin, il n'y a pas de hiérarchisation de la Constitution dans ces articles. Donc, c'est vraiment pas sur ce point-là. Mais en créant cet article avec le terme de garantie, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles obligations, un nouveau terrain de jeu qui se créerait? Je pense que avec cet avis-là, je serais tenté par dire que quand même il y a création de quelque chose. Après, je sais pas ce que. Enfin, toi, du coup, t'avais l'air de plutôt douter, Anthony, Antoine.
Bah, il faudra voir comment les juges vont. Enfin, si c'est adopté, parce que. Bon, faut... Enfin,
Oui,
voilà.
bien sûr.
Sur le fait adopté, là, ça a été donc le 11 mars, hein, l'Assemblée nationale, ils ont adopté le texte dans sa rédaction initiale, pas dans sa rédaction proposée par le Conseil d'État.
D'accord, ok.
On se projette un peu, mais ça a été adopté avec garantie, avec lutte et avec biodiversité. Donc, ça a été adopté dans sa version la plus, on va dire, la plus
Standardisé.
exigeante.
Ok.
Mais comme tu disais, Anthony ou Xavier, en fait, soit c'est de la poudre aux yeux et c'est pour faire plaisir à la commission citoyenne, soit les juridictions s'en saisiront réellement et feront poser une obligation quasi-résultat ou de résultat sur l'État pour garantir et pourront alors l'attaquer parce qu'il n'a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour préserver l'environnement. Enfin, je ne sais pas. Ça paraît quand même, si c'est pris au pied de la lettre qu'il y a une obligation de résultat qui naît et que les juridictions, les juges vont jusque-là, ça fait, enfin, ça peut être interprété très largement.
Ouais, ben ouais, mais c'est ce côté où, pour le coup, là, le Conseil d'État allume un voyant, je me dis, c'est pas anodin quand même, oui. Ou t'as, enfin, mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu aucun changement, ne serait-ce que, par exemple, sur l'utilisation du terme diversité biologique à la place de biodiversité, telle que proposée par la Convention. Je sais pas si scientifiquement il y a une. Il y a une différence, mais pour le coup, le fait que le Conseil d'État dise, bah, pouvoir harmoniser les textes de droit français dans la charte quand on utilise diversité biologique. Bon, je me suis dit, ça m'a pas choqué, c'est vraiment une utilisation d'un mot pour un autre. Mais c'est vrai que du coup, avec le terme garantie. Et est-ce que tu sais si. Parce qu'après, y a eu dans l'avis du Conseil d'État, il y a un petit paragraphe sur la modification de l'article 34 sur les prérogatives de la loi. Est-ce que tu sais s'ils en ont discuté ou pas?
Non, alors ce qui a été voté le 11 mars dans le projet de loi constitutionnelle, il y avait un seul article et c'était celui-là. Il n'y avait rien d'autre. Ensuite, dans les débats parlementaires, je t'avoue que j'ai pas lu. Peut-être que ça a fait l'objet
Ok, parce que
de
juste
questions.
pour la petite précision, c'est que le Conseil d'État avait proposé la modification de l'article 34 en changeant le terme de. Parce qu'actuellement, l'article 34 confie à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Et là, le Conseil d'État voudrait plus l'utilisation, enfin, le fait de modifier cet alinéa pour prévoir que la loi détermine les principes fondamentaux du droit de l'environnement, selon le Conseil d'État, une notion qui recouvre les trois objectifs qui seraient désormais inscrits à l'article premier. Donc, pareil, entre préservation de l'environnement et droit de l'environnement, c'est vrai que c'est. Je sais pas si c'est vraiment un problème de juriste, de législatif, mais ouais, c'est là, je sentais pas trop la différence, quoi.
Je sais pas. Après, là, pour le moment, de toute façon, ça a passé l'Assemblée nationale, ça doit encore faire l'objet d'un vote au Sénat. Et pour le coup, le Sénat a une majorité républicaine et les républicains, eux, préfèrent. Enfin, ne veulent pas du terme garantir. Donc, on va peut-être avoir une navette
Oui,
parlementaire qui va devoir mettre ça
puis
en
même,
place, peut-être
enfin,
mettre une commission mixte paritaire.
même une fois que si le Sénat l'adopte, ensuite ça doit être soumis au référendum ou bien soumis au Congrès. Donc, enfin, voilà, on est encore. Je pense que là, on en parle un petit peu, mais il faudra attendre vraiment de voir la version définitive pour pouvoir se prononcer, parce qu'il y a, enfin, y a quand même de fortes chances que ça n'aboutisse pas, quoi.
Tout à fait. Si c'est bon, on passe au troisième sujet. Donc le troisième sujet du jour, c'est un arrêt du tribunal de l'Union européenne, Ryanair contre Commission. On vous en parle parce que c'est la question des discriminations dans l'Union européenne qui est en jeu. Pour faire très simple, si vous voulez, suite donc à la crise du coronavirus et aux difficultés subies par les compagnies aériennes. La France donc a mis en place un moratoire sur le paiement de la taxe d'aviation civile et la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Donc c'est des taxes que payent les compagnies aériennes qui sont titulaires d'une licence en France. Et donc simplement en fait c'est le report du paiement de ces taxes et son étalement. Et donc la question qui s'est posée, c'est considéré comme une aide d'État par principe. Donc la procédure veut que la France la notifie à la Commission européenne afin de savoir si c'est une aide d'État qui est compatible avec le droit de l'Union européenne. La Commission répond par la positive puisqu'elle considère que c'est une aide qui est destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. C'est l'article 107.2b pour ceux du TFUE, pour ceux qui seraient intéressés. Donc en fait, ce serait une aide d'État compatible. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est que Ryanair a finalement contesté cette décision de la Commission européenne sur deux fondements, enfin sur quatre fondements, mais il y en a deux qui sont vraiment intéressants, voire même un seul. Et parmi donc sur les deux qui sont intéressants, la première critique qui est faite, ce serait que l'autorisation donc de cet étalement des charges pour les compagnies aériennes qui ont leur licence en France porterait atteinte à l'article 18, alinéa 1 du TFUE, qui est le principe général de non-discrimination. C'est sur ça que le tribunal de l'Union européenne vient statuer. Donc l'article 18, paragraphe 1, en fait, c'est les discriminations qui existent en raison de la nationalité du citoyen. Le tribunal y raisonne en deux temps. Premièrement, donc, il confirme que les restrictions pour lutter contre le Covid-19 sont un événement extraordinaire au sens donc de l'article 107 et donc qui peuvent être mis en place, qui sont compatibles avec les aides d'État. Et deuxièmement, Il s'interroge sur le fait de savoir si la limitation de ce dispositif aux sociétés titulaires de licence française, sociétés aériennes titulaires de licence française, ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. Et donc là, il résonne en deux temps à nouveau le tribunal de l'Union européenne, puisqu'il dit, lorsqu'une société aérienne est titulaire d'une licence en France, elle a un lien spécifique avec la France. Et il y a notamment des obligations réciproques, notamment des obligations financières, soit de paiement de taxes, soit de divulgation des comptes, et ainsi de suite. Et donc, partant de là, le tribunal, il va dire que oui, ces aides, elles sont proportionnées avec la situation, et on est d'accord pour que seuls les titulaires de licence française bénéficient de ces aides. Pour deux raisons. Premièrement, parce que les restrictions en fait pour lutter contre le Covid, elles sont décidées territorialement et pas au niveau de l'Union européenne. Donc les sociétés qui sont titulaires de licences en France, elles ont fait face à un territoire fermé pendant une durée, différente des sociétés installées en Irlande ou en Angleterre, ou enfin l'Angleterre n'étant plus dans l'UE, mais peu importe dans quel autre État membre. Et deuxièmement, parce que si le moratoire d'étalement des charges s'appliquer à toutes les entreprises indépendamment du lieu dans lequel elles sont établies, on aurait cette fois un risque de surcompensation. Et donc on voit en fait qu'il y a vraiment une volonté de préservation de la concurrence dans cette décision du tribunal, puisque il cherche à lutter contre la surcompensation, ce qui n'existe pas lorsqu'une société finalement est victime d'un événement extraordinaire. C'est normal de compenser les pertes liées aux restrictions. Mais il faut être certain qu'on ne compense que ses pertes et pas plus. Et si on acceptait que des sociétés non domiciliées en France pouvaient en bénéficier, on aurait le risque de les surcompenser, notamment si elles avaient subi moins de restrictions dans le pays dans lequel elles sont installées. Et c'est comme ça que finalement, le tribunal de l'Union européenne écarte la discrimination qui existerait entre les sociétés aériennes implantées en France et celles implantées ailleurs dans l'Union européenne. Il y a trois autres points qui ont été détaillés mais qui sont mineurs sur la libre prestation de services qui aurait été violée par ce moratoire. Ce n'est pas applicable, il y a un règlement spécifique donc c'est hors du champ. Et il y a deux autres points mais qui sont pas pertinents. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
Non,
Anthony Xavier.
non, mais franchement, tu as très bien résumé la situation. Juste pour préciser une chose dans cette procédure, Ryanair qui a voulu un peu faire des frappes aériennes un peu partout, parce qu'il y a la même décision, mais qui a été rendue en faveur de la Suède. Donc c'est pas une décision isolée. Et c'est problématique d'aide d'État. Enfin, pour teaser un peu le mois de mars, parce que du coup, l'arrêt est passé au début du mois de mars, donc ce sera pour le mois prochain. C'est pas évident souvent pour les États de se justifier sur ces aides d'État. Et la preuve en est dans l'arrêt du mois prochain où ce sera dans le domaine du sport avec des aides d'État pour les clubs de foot espagnols, notamment l'FC Barcelone, où là pour le coup, l'État a été sanctionné parce que ça n'a pas été considéré comme une aide justifiée. Donc c'est vraiment là, après là, on pourrait dire que le Covid justifie tout, mais je pense que ça n'a pas dû être tant évident que ça à se dédouaner de cette situation, quoi.
Ok, bah si on n'a rien à rajouter sur ça, on passe directement au quatrième sujet du jour. Xavier, si je ne me trompe pas, c'est un rapport sur la délinquance?
Oui, c'est ça, c'est un rapport qui nous provient de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, qui a sorti un rapport intitulé Criminalité, sécurité et droits des victimes, avec des chiffres clés donc, qui visent à compléter la stratégie de l'Union européenne relative aux droits des victimes et à identifier un peu le profil des victimes, le profil des infractions. Et donc le rapport, il invite les États membres à prendre quatre grandes mesures. Donc la première, c'est d'assurer l'accès à la justice car selon ce rapport, près d'une personne sur 10 dans l'Union européenne a été victime de violences au cours des 5 dernières années que couvre l'enquête. Ce pourcentage, il varie de 3 à 18% selon les pays. Quant au harcèlement, le pourcentage de victimes s'élève à 41% dans l'Union européenne, avec un intervalle qui va de 15 à 62% en fonction des pays. On voit qu'en fonction des pays, c'est énorme le delta. Les États membres sont aussi invités à offrir une aide ciblée, car près d'un quart des jeunes, donc les 16-29 ans, et un cinquième des personnes qui se reconnaissent comme LGBTI, qui ont un handicap ou qui sont d'une minorité ethnique, indiquent avoir été victimes d'agressions physiques au cours des 5 dernières années. Le rapport préconise que les pays devraient accorder une attention particulière aux besoins spécifiques de ces divers groupes afin de mieux les protéger contre les violences. Naturellement, le rapport invite aussi les États membres à mieux aider les femmes. Toujours les chiffres du rapport, on note que plus d'un tiers des violences physiques à l'égard des femmes sont perpétrées au domicile et entraînent des séquelles psychologiques dans 69% des cas. De plus, on a près de 3 fois sur 4, le harcèlement sexuel à l'encontre des femmes est exercé par une personne inconnue de la victime. Et le dernier axe, c'est faciliter le signalement des crimes. Ça, on le sait, même en France, c'est un gros sujet sur les violences sexistes, le harcèlement de rue, enfin, la manière de signaler les crimes, il y a un gros sujet là-dessus. Le rapport énonce que seul un tiers des victimes d'agressions physiques et un dixième des victimes de harcèlement le signalent à la police, ce qui est assez faible. Et la fréquence des signalements varie selon les pays, reflète des différences culturelles et des niveaux de confiance en les institutions. Donc ça, c'est un rapport qui a été publié au mois de février, qui fait une centaine de pages. Mais pour les chiffres que j'ai cités, ça permet d'avoir quelques données clés. Toujours dans cette optique DLF. Donc voilà pour moi pour ce rapport. Donc je ne sais pas si vous avez des précisions ou des commentaires à faire sur ce rapport, ou sinon si je peux passer à l'arrêt d'après.
Oui, je pense qu'on peut enchaîner, oui.
L'arrêt d'après, c'est un arrêt du Conseil d'État du 12 février 2021, relatif plutôt au droit d'asile. Assez simple dans sa compréhension, même si je trouve que la nuance est assez fine. Pour faire simple, on a un demandeur d'asile dont la demande a été suspendue par l'OFPRA, car ce dernier avait été condamné à une peine présente dans le code pénal, qui était présente dans le chapitre concernant les actes terroristes. Et en fait, le fait d'être condamné pour des actes terroristes, ou pour des actes de terrorisme plutôt, c'est un motif permettant de re soit refuser le droit d'asile, soit le suspendre, donc retirer le droit d'asile. Sauf que la Cour nationale du droit d'asile a très justement relevé, comme le note le Conseil d'État, que l'infraction pour laquelle ce demandeur d'asile avait été condamné, c'est une infraction qui certes était présente dans le chapitre présentant les actes de terrorisme. Mais l'infraction pour laquelle il avait été condamné, c'est l'apologie publique des actes de terrorisme, tels que définis à l'article 421-2-5 du Code pénal, qui en elle-même n'a pas été définie par le législateur comme acte de terrorisme. Parce que si on regarde d'un peu plus près les articles et les infractions de ce titre du code pénal portant du terrorisme, on a par exemple l'article 421-1 qui dit constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Donc le code et le législateur orientent directement en disant ça c'est un acte de terrorisme et dans le silence tel qu'il est pour cet article sur l'apologie du terrorisme, c'est une QPC qui avait été portée et le Conseil constitutionnel là-dessus est assez clair. D'une part, si le délit d'apologie publique d'acte de terrorisme est prévu par l'article 421-2-5 du Code pénal qui figure dans le chapitre premier intitulé Des actes de terrorisme du titre 2 du livre 4 du même code, le législateur n'a pas expressément qualifié cette infraction d'acte de terrorisme. Et donc, c'est à juste titre qu'on ne peut refuser le statut de réfugié à cette personne sur ce fondement. Donc, je ne sais pas si j'ai assez bien, si c'était clair ou quoi, ou si vous voulez apporter des précisions peut-être, Antoine ou Anthony, sur cet arrêt.
J'ai pas forcément le temps de beaucoup le regarder, celui-là, malheureusement. Donc je pense que Xavier t'a dit l'essentiel. Je sais pas toi, Antoine, si t'avais le temps. Moi, j'avoue que celui-là, je l'avais pas trop vu.
Alors, moi j'ai juste un truc, c'est donc c'est en fait le s'appuie beaucoup cet arrêt s'appuie beaucoup sur une QPC 2018-706, donc du 18 mai 2018, puisque c'est une QPC qui renvoie elle-même à une DC de 1996, dans laquelle le Conseil constitutionnel, donc s'appuyant sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, donc qui est un principe constitutionnel, qui disait qu'en fait un comportement ne peut être qualifié d'acte terroriste et donc d'encourir des sanctions réservées aux actes terroristes, pardon, que lorsque ce comportement est en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste, puisque cette qualification a des conséquences très importantes en matière d'aggravation de peine, mais aussi en matière d'application, vous savez, de toutes les procédures dérogatoires relatives aux actes de terrorisme, soit sur les méthodes d'enquête, soit sur la durée des gardes à vue, soit sur le décalement de l'arrivée de l'avocat en garde à vue. Et donc en fait, cette infraction d'apologie publique d'actes du terrorisme avait déjà à l'époque été retirée, ou du moins déqualifiée, des actes de terrorisme. Au sens, je vais dire, procédural du terme, au sens d'aggravation des peines, au sens de l'aggravation des peines. Et donc, on a en fait, dans un chapitre 1 intitulé Des actes de terroristes, des infractions qui ne sont pas considérées comme des actes de terrorisme. Donc, c'est un peu capillotracté, mais c'est ce que le Conseil d'État vient nous dire. Et la conséquence, comme tu disais parfaitement, Xavier, c'est que on ne peut pas appliquer le deuxième point de l'article, donc L711-6 du CESEDA, et refuser. Le statut de réfugié à quelqu'un qui aurait commis l'apologie publique d'actes du terrorisme. Voilà, c'est tout ce que je pensais rajouter. Si on a fait le tour sur ça, on peut envoyer un arrêt du Conseil d'État qu'Anthony a dégoté.
Ouais, celui-là, je peux en parler pour le coup. Donc ça, c'est une ordonnance de référé qui a été rendue le 3 février 2021, qui porte en fait sur la liberté de la presse et la possibilité pour les journalistes d'accéder au camp de migrants, pour le coup, notamment quand il y a des périmètres de sécurité qui ont été mis en place par la police. Donc là, dans l'affaire qui était jugée, c'était les journalistes qui voulaient en fait rentrer dans les camps de migrants qui avaient été installés dans le nord de la France et qui voulaient y effectuer des reportages, etc. Et en fait, il y avait un périmètre de sécurité qui avait été établi par la police. Et du coup, la police les empêchait de rentrer, notamment pour des motifs de sécurité publique et du fait qu'il y avait des contrôles d'identité qui étaient effectués, etc., et qu'on était du coup obligé de restreindre, enfin de créer un périmètre de sécurité. Et donc, ils avaient saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension de ce périmètre et d'une demande donc du coup visant à les autoriser à rentrer dans le périmètre de sécurité. Et donc le tribunal administratif leur a donné tort, enfin ne leur a pas fait droit à leur demande, et ils ont du coup saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, du coup, qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, ce qui est un apport, pardon, important de cet arrêt, c'est d'abord le Conseil d'État a considéré que la liberté de la presse est une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de justice administrative qui porte sur les référés liberté. Et c'est la première fois que le Conseil d'État dit expressément que la liberté de la presse rentre dans ce champ des libertés fondamentales qui sont invocables dans le cadre d'un référé liberté. Il l'avait déjà dit pour la liberté d'expression, la liberté de communication, etc. En fait, là, il le précise pour le cas de la liberté de la presse. Par contre, il dit que dans l'appréciation qu'il va faire, du coup, il va regarder si l'autorité administrative, donc en l'occurrence le préfet, a porter une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté de la presse. Et ce qu'il va constater, c'est que il y avait des motifs d'ordre public qui étaient notamment d'éloigner les tiers de ce périmètre, qui étaient de permettre les contrôles d'identité dans un contexte qui était tendu, où il y avait des problématiques de sécurité. Et du coup, le Conseil d'État nous dit que ces mesures d'éloignement qui en plus, d'après le Conseil d'État, n'empêchait pas les journalistes de filmer de loin, ne sont pas du coup disproportionnés par rapport à la liberté qui était, à laquelle on portait atteinte. Et donc voilà, je trouvais que c'était un arrêt qui était intéressant, notamment parce qu'il érige cette liberté de la presse en liberté fondamentale, ce qui est quand même, une nouveauté, même si dans le cas d'espèce, il ne fait pas droit à la demande, sachant qu'en plus, lorsque le Conseil d'État statue, c'est 2 mois plus tard, et l'urgence, du coup, n'était plus vraiment, n'était plus vraiment là, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez un petit commentaire à ajouter sur ce point-là de la liberté de la presse.
Non, pas
Pas ouais, pas
particulièrement.
particulièrement, ouais.
C'est vrai que ça fait. Moi, ça me fait penser un peu à. Mais c'est un sujet que je connais mal, vous savez, pendant toute la. Il y a eu un débat sur ça, avec la loi Sécurité globale, puisqu'on a dit à un moment que les journalistes devraient dorénavant venir avec derrière les unités de CRS en manifestation, et seraient chargés comme les manifestants s'ils restaient, en fait. Dans les manifestants. Alors, il est moins. Enfin, si, c'est aussi une question de liberté de la presse, puisque finalement, un journaliste qui sait qu'il peut être chargé quand il couvre une manifestation côté manifestant, il va peut-être moins y aller, donc ça porte atteinte à la liberté de la presse. Mais ça avait fait un tollé, et donc je trouve que, bah voilà, le Conseil d'État, il réaffirme un peu que la liberté de la presse, c'est aussi une liberté essentielle.
Oui, je suis d'accord dans ce contexte, c'est quelque chose d'important. Et voilà, enfin, je pense que c'est quand même un arrêt important parce que les référés liberté au grand os, pour ceux qui préparent le CRFPA, c'est quand même une procédure qu'il faut connaître et savoir notamment quelle liberté rentre dans le champ et quelle liberté ne rentre pas. Je pense que c'est. Voilà, je trouvais que c'était peut-être quand même intéressant dans cette perspective.
Est-ce que tu, comme ça, tu pourrais rappeler un peu ce qu'il en est, Roustan, ou pas de ça?
La procédure du référé liberté?
Ouais, et les quelques libertés de tête qui rentreraient dedans?
Bah, les libertés qui sont incluses, c'est toutes les libertés qui sont considérées comme fondamentales. Donc, le droit à la sûreté, la liberté d'expression, la liberté d'association. Voilà, enfin, toutes ces grandes libertés qui sont considérées comme fondamentales par le Conseil d'État. En fait, c'est une procédure qui permet de saisir le juge administratif lorsque l'administration a pris une décision qui porte une atteinte à cette liberté fondamentale. Il y a aussi le droit de propriété, bien sûr, qui peut être invoqué lors d'un référé liberté. Et ce qui est intéressant, c'est la rapidité, en fait, dans laquelle le juge doit se prononcer, parce que normalement, il doit se prononcer sous 48 heures, le juge administratif. Donc c'est vraiment une procédure où il faut démontrer un caractère d'urgence. Mais si on arrive à le démontrer, on a une décision qui est très rapide, qui est provisoire, mais qui est très rapide. Donc voilà, c'est une procédure qui est intéressante en ce sens. Et après, si on veut faire appel, il faut aller devant le Conseil d'État. Et là, je ne sais plus combien de temps le Conseil d'État a pour statuer. Mais je crois que c'est assez rapide. Je crois qu'il a aussi quelques jours pour se prononcer. C'est assez rapide.
Vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu beaucoup de problématiques de surpopulation carcérale. Ça avait été un sacré bloc, il y a eu beaucoup de décisions. Et il me semble qu'il y avait justement eu une décision en fait, de la Cour européenne des droits de l'homme, considérant que le référé liberté n'était pas un outil qui pouvait être utilisé pour lutter en fait, contre la surpopulation carcérale. Enfin, qu'il pouvait être utilisé lorsqu'on était détenu dans des conditions de détention indignes. Mais que le Conseil d'État avait répondu en disant que le référé liberté n'était pas utilisable puisque le problème de la surpopulation carcérale était un problème comment dire, de fond et pas de forme en fait, et que donc il était incompétent sur ce fondement-là.
Ben en fait, c'est ça, c'est qu'il peut uniquement prendre, vu que c'est le juge des référés, il peut prendre que des mesures provisoires. Et il peut pas ordonner, en fait,
Une réforme structurelle.
même enfin, oui, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense que dans ces arrêts-là, il s'était déclaré que c'était pas la bonne procédure. Cette procédure-là, elle va surtout avoir vocation à suspendre des décisions. Par exemple. Par exemple, si jamais quand il y a des associations qui sont dissoutes, ça peut être, enfin, on peut avoir recours à cette procédure pour suspendre la décision.
Ok, eh bien je crois qu'on a fait le tour des 6 points d'actualité de DLF qu'on voulait mettre en avant ce mois-ci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Anthony ou Xavier?
Non.
Je pense que c'est pas forcément la peine, vu que l'épisode, je pense, va être déjà assez long.
Ouais, je pense aussi.
Donc, bah, je pense peut-être conclure juste en disant que si vous avez d'autres arrêts que vous estimez importants, qui sont sortis en février ou en début d'année, et qu'on n'a pas forcément traité, n'hésitez pas à nous les dire, soit dans le Discord, soit sur Facebook ou sur les différents réseaux, parce qu'on prend en compte toutes ces observations et éventuellement on pourra le traiter dans le prochain épisode. Donc voilà, c'est collaboratif, donc n'hésitez pas à nous donner même votre ressenti sur le format, si vous trouvez que c'est trop long, si vous voulez qu'on fasse moins d'arrêts mais qu'on aille plus en profondeur, n'hésitez pas.
Super. Eh bien, sur ce, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine plutôt, puisque ce sera probablement publié lundi. Et puis, on se retrouve pour des épisodes peut-être de destination CRFPA, et c'est sûr pour un épisode de destination DLF le mois prochain.
Bonne journée!
Pour que l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.